Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma thèse.
Quelles recherches mènent les doctorants? Pourquoi écrivent-ils une thèse? Est-ce simple, enthousiasmant ou difficile de s'atteler à un travail de plusieurs années? Aujourd'hui, Malo Camus, doctorant au Centre de recherche bretonne et celtique et à l'école doctorale Société Temps Territoire, nous présente son sujet de recherche, les raisons de ce choix, sa méthode de travail et ses premiers résultats. Le sujet de la thèse, les classes de mère en Bretagne, socio-histoire d'un modèle éducatif. Première question, déjà quand on est en master, quelles sont les raisons qui peuvent pousser un étudiant de master à décider de s'inscrire en thèse, parce que c'est un gros travail.
Oui, c'est sûr que c'est un gros travail. Donc mon master, déjà, peut-être que c'est important de préciser que je l'ai fait à Brest. J'étais donc dans le master STAPS sociologie du sport, et donc territoire. Et j'avais plutôt travaillé sur des sujets de mémoire de recherche. Et j'avais aimé justement cette recherche durant mes deux mémoires, de Master 1 et de Master 2. J'avais même pu partir dans un laboratoire à l'Université de Corse en Master 2 pour faire mon stage, et donc un mémoire de recherche. Et c'était des travaux que j'avais plutôt apprécié mener. Et les deux fois, j'avais travaillé avec Julien Fuchs. Donc en fait, quand il m'a proposé de penser à une poursuite en doctorat, je me suis dit pourquoi pas. Et le fait que ce soit lui qui me le propose aussi, ça avait beaucoup joué, parce que j'avais confiance en lui, et puis je savais comment il travaillait, j'aimais bien travailler avec lui. Et donc quand il m'a proposé un sujet sur les classes de mère, bah, je me suis dit que pourquoi pas essayer de me lancer, et c'est parti comme ça en fait. J'ai voulu poursuivre dans le doctorat.
Donc en fait, vous répondez par avance à la deuxième question. La deuxième question, c'est pourquoi ce sujet, ouais.
Bah, alors le sujet en tant que tel, moi c'est vrai que donc mon directeur de master, qui par la suite est devenu mon directeur de doctorat de recherche, Julien Fuchs, m'avait proposé ce sujet sur les classes de mère, parce que c'était une problématique actuelle sur laquelle il travaillait avec d'autres chercheurs de domaines variés. Et pour moi, ça m'avait tout de suite intéressé, parce que la mère, c'est quelque chose enfin, j'ai une certaine sensibilité par rapport à la mère. Je viens d'un petit village bigoudin, Lesconil, en fait, qui est très, très tourné vers le nautisme, ou en tout cas vers la mer, vers le littoral, d'abord vers la pêche, puis par la suite vers le nautisme. Et venant d'une famille aussi d'enseignants, les classes de mère, ça me parlait. Donc la possibilité de lier cette sensibilité personnelle, mes travaux universitaires de master, et de prolonger ça en doctorat, ça m'a intéressé. Et donc ce sujet sur les classes de mère, j'essaye petit à petit de vraiment le faire mien, et sur des thématiques qui me tiennent à cœur.
Donc on a un sujet, un, qui touche la mer, qui... Vous êtes voisin de la mer, à Lesconil, et deux, pédagogie, fils d'enseignant, c'est ça?
Voilà.
Donc c'est parfait, mais alors après, comment faire un sujet de thèse avec des questions associées des questions que se posent forcément un chercheur et un doctorant.
Voilà, parce que donc, les classes de mer, c'est un sujet, c'est une thématique, c'est pas en tant que tel vraiment un sujet de recherche. Peut-être que je peux préciser que donc, mes travaux de master, je les avais menés sur les identités locales, identité de territoire, développement territorial. Et donc c'est en partant de ces constats-là, de ces travaux préalables de master, que j'ai essayé de construire un objet de recherche avec la thématique des classes de mère. Donc de comprendre déjà l'histoire des classes de mère, de partager cette histoire qui en fait n'a pas été travaillée par la recherche universitaire. Donc ça, c'est le premier volet du sujet. Et après, d'essayer de comprendre aussi en quoi les classes de mer ont participé et participent encore au développement territorial breton, du littoral breton en tout cas.
D'accord, le troisième mot-clé, c'est territoire. Oui.
Voilà.
D'accord.
On va dire ça.
Donc, vous voulez faire l'histoire des classes de mer et ensuite, voir de quelle manière elle restructure le territoire.
Ouais, l'ambition première, c'est vraiment de faire l'histoire de ces classes de mer, parce qu'elles sont très méconnues, au contraire d'autres formes de classes de découverte qui ont été beaucoup plus travaillées, comme les classes de neige par exemple. Mais les classes de mer, elles ont été surtout travaillées pour le volet éducatif, pédagogique, ce qu'elles apportent en termes pédagogiques à l'école. Mais l'histoire culturelle, sociale des classes de mer n'a jamais vraiment été faite. Et c'est encore à l'état de friche. Et on pourrait parler d'un pan de l'histoire maritime bretonne, finalement, qui est absente, en fait. Donc l'idée première, c'est vraiment ça. Et après, de rentrer peut-être dans une problématique aussi plus sociologique, en parlant de développement territorial, en s'intéressant aux acteurs, aux logiques, aux modalités de développement de ce phénomène éducatif et culturel.
Et vous aviez une formation en sociologie du sport.
Voilà.
Vous n'étiez pas historien.
Je n'étais pas du tout historien.
Donc alors comment s'y prend un sociologue qui n'est pas historien, quand il fait de l'histoire?
Bah, c'est vrai que ça a été une des grosses difficultés du début de la thèse, c'était devenir historien. Parce que je n'avais pas de formation universitaire en tant qu'historien. Je connaissais mal ou pas du tout les méthodes de travail de l'histoire. Les archives, je n'avais pas de méthodologie de travail. Donc ça s'apprend en faisant. Il y a un article d'ailleurs qui s'appelle « Est-ce en forgeant qu'on devient forgeron ?» qui parle un peu de ces questions-là, de s'approprier des méthodes. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, quoi. Il fallait que justement j'aille dans les archives, que j'aille aux archives, que je m'approprie ces méthodes d'historien. Il fallait lire beaucoup. Et puis aussi en travaillant avec Julien Fuchs, mon directeur, donc, qui est lui-même historien, et puis qui m'a beaucoup guidé et qui me guide encore. Et s'entretenir avec des historiens aussi, discuter avec d'autres doctorants, pas forcément des historiens avérés, mais en tout cas d'autres doctorants qui travaillent en histoire, comprendre un petit peu les méthodes et apprendre comme cela, quoi.
Donc vous avez été dans les archives, alors quelles archives? Parce que là, il faut circonscrire, sinon…
Tout à fait, alors déjà, on peut parler des archives au niveau départemental, notamment au niveau du Finistère, parce que les classes de mer, elles sont nées en Finistère, donc il fallait peut-être commencer par là. Après, ça peut être des archives nationales. Au niveau de l'éducation nationale, il y a aussi des archives. Donc, il y a le Centre des archives nationales de Pierrefitte qui regroupe un certain nombre d'archives. Et puis après, c'est des archives plus personnelles de personnes qui ont participé à l'histoire des classes de mer, donc qui ont conservé des documents. Il y a aussi des archives au niveau d'institutions, d'entreprises comme Nautissement Finistère, très liées au territoire. Et c'est toutes ces archives-là, après, qui permettent d'avancer, de construire son sujet aussi, et de l'enrichir.
C'est l'histoire depuis la création des classes de mer, c'est ça, en 64
En 64, à Logona, Daoulas, tout à fait, Moulin-Mer.
Et d'un point de vue sociologique, si vous vous intéressez à la logique des acteurs, donc il faut, une enquête de ce côté-là aussi, hein.
Tout à fait. Donc cette problématique sociologique, elle se crée justement par des interviews d'acteurs, donc avec des entretiens quantitatifs, semi-directifs, pour aussi comprendre les archives, peut-être papier que j'ai pu trouver dans les archives, et les mettre en opposition avec des discours, avec des acteurs qui ont participé, peut-être même qui ont fait ces archives-là, et justement comprendre et faire monter le sujet petit à petit.
Donc, j'imagine que petit à petit, je crois que c'est le mot, il y a des allers-retours permanents entre les archives, les acteurs,
bien sûr,
voire même les questions, peut-être, les questions qui évoluent.
Tout évolue, bien sûr, au fur et à mesure de la recherche. C'est une perpétuelle remise en question. Et même, je pense que le jour où je vais soutenir, il y aura toujours des questions qui se poseront et qui évolueront. C'est déjà faire un premier pas dans la recherche sur l'histoire des classes de mer, sur leur développement, poser des questions, continuer à interroger cette thématique et cette logique des classes de mer. Ouais.
D'accord. Bon, à ce stade, vous êtes en deuxième année de thèse, donc après c'est la troisième année et la dernière année, normalement, même s'il y a des exceptions, assez nombreuses même. À ce stade, au bout de deux ans de travail, d'enquête, de recherche dans les archives, est-ce que vous avez pouvez prétendre à des résultats. Alors un résultat en science, c'est, alors pour le public, c'est un article essentiellement, ça peut être une participation à un colloque, ça, bon. Mais ça peut être quelque chose qu'on n'a pas encore peut-être publié, mais qui est bien posé là et qui s'affirme comme un résultat. Est-ce que vous avez ce genre de choses ?
Oui, ça commence à venir aussi forcément au fur et à mesure que la recherche avance. L'année dernière, déjà en première année, j'avais pu éditer, enfin créer en tout cas un dossier sur les classes de mer pour un site en ligne qui retrace des phénomènes bretons, donc un site qui s'appelle Bécédia, et c'était donc un petit dossier de vulgarisation sur l'histoire des classes de mer, où je déclinais les grandes périodes. Et après, au niveau plus universitaire, j'ai pu participer à des colloques, notamment pour parler de la première grande période des classes de mer, qui va de la création en 64 jusqu'à l'institutionnalisation par l'Éducation nationale, donc la remise sous tutelle de l'Éducation nationale du phénomène classe de mer en 71. Ça, j'ai eu l'occasion de le faire en septembre dernier à Lausanne, dans un colloque d'histoire du sport. Donc c'était très intéressant. En amont de ce colloque, j'avais participé à une université d'été aussi avec des doctorants du monde entier. Donc pendant une semaine, on avait un petit peu échangé sur nos différents sujets de thèse. Donc c'est aussi une des richesses de la thèse d'être toujours dans ces échanges-là. Et puis ne pas se restreindre à un domaine parce qu'on travaille toujours au sein d'un programme de recherche qui s'appelle Classe Mer en fait, avec des chercheurs d'autres disciplines, donc de géographie, de sociologie. Et justement, en lien avec ce projet de recherche Classe Mer, on est en préparation d'un article sur la diffusion des classes de mer sur le territoire métropolitain français. Donc un article d'histoire et de géographie avec...
Avec qui alors ?
Avec Emmanuel Pével et Nicolas Bernard pour les géographes, et donc Julien Fuchs et moi-même pour les historiens. Donc,
vous travaillez avec un autre laboratoire là ?
Oui, on est dans des laboratoires différents, mais on est au sein d'un même groupe de recherche, en tout cas après Classe Mer.
D'accord, donc avec des géographes. Il y a d'autres disciplines
représentées dans l'article dont je parle là, non, mais au sein du projet de recherche Classe Mer, oui, il y a aussi des sociologues. D'accord. Et des chercheurs en sciences de l'éducation.
Peut-être des logiques d'acteurs qui se dégagent
Tout à fait. Ça fait justement partie, oui, des recherches aussi, comprendre ces logiques d'acteurs entre les pionniers qui ont une vision.
Ah oui, c'est pas les mêmes que.
Voilà, et cette vision justement entre les pionniers et l'évolution, on passe vraiment d'un modèle aussi qui évolue, et c'est ça qu'il faudra que j'essaye de bien faire ressortir au moment de rédiger la thèse. Entre les logiques pionnières de, entre guillemets, démocratiser l'accès au nautisme, de permettre aux enfants de découvrir les activités nautiques, de former, d'éduquer au littoral.
Un projet politique, presque.
Voilà, il y a un lien avec les politiques qui ont beaucoup soutenu les classes de mer dans leurs premières années, et une vision plus contemporaine où peut-être qu'on est plutôt sur une vision touristique du littoral avec des classes de mer plus courtes et plus une consommation entre guillemets du littoral, mais ça reste surtout là des hypothèses de travail qu'il faudra que
qui s'inscrivent peut-être dans l'histoire plus générale
aussi, voilà, et c'est pour ça qu'il faut bien prendre en compte les évolutions sociales et sociétales au cours de la recherche en fonction des périodes entre les années 60 et aujourd'hui. Il s'est passé des tas de choses, ouais.
D'accord. Oui, plaisir, difficulté, parce que la thèse, c'est un énorme truc, je pense que c'est extraordinaire et en même temps c'est terrible. Enfin, je crois que moi j'ai commencé, j'ai pas fini, mais bon, pour des raisons valables. Donc, plaisir et difficulté et vertige d'une thèse.
Je pense que je peux commencer peut-être par les difficultés pour finir sur le positif, parce que c'est vrai que au début, quand on se lance dans une recherche, on se dit déjà j'ai 3 ans pour faire, c'est une montagne, je ne sais pas par où commencer à la gravir, on a assez peur finalement, on ne sait pas par où commencer, on se pose beaucoup de questions, des questions qui restent durant toute la durée de la thèse, mais qui évoluent aussi. Et puis bon, il y a la difficulté de mener un travail finalement très solitaire, parce que le sujet de thèse, on en fait ce qu'on veut, on le mène comme on a envie de le mener, on a une liberté totale sur le sujet, ou presque en oui. tout cas. Mais voilà, ça peut, c'est un point très positif, mais en même temps c'est un frein, parce que des fois on ne sait pas par où partir, on se demande est-ce que c'est bien, est-ce que finalement j'aurais pas dû plutôt faire comme ça. Voilà, on se pose beaucoup beaucoup de questions. Mais c'est aussi un mal pour un bien, parce qu'on apprend énormément, ne serait-ce que à titre personnel sur soi-même, mais aussi dans les méthodes de travail, dans la rigueur que ça demande. Et puis intellectuellement, c'est super intéressant de creuser un sujet vraiment, et puis d'être, oui. En plus là j'ai beaucoup de chance, parce que je suis un des premiers à mener une thèse sur les classes de mer, donc j'ai une...
les archives vierges.
Voilà, on peut dire ça, ouais. Il y a des parties d'archives que je suis peut-être le premier à découvrir, et en tout cas sur lesquelles je serai le premier à travailler, donc c'est super.
D'accord. On peut imaginer la suite, si tout se passe bien dans un an, il y a une soutenance. Pendant 3 ans, vous aurez un diplôme, mais c'est bien au-delà, évidemment. C'est un savoir-faire pour formaliser les problèmes, pour organiser un travail, etc. La thèse peut conduire vers la recherche, peut conduire aussi vers d'autres choses. Vers quoi on peut imaginer, là, bon... Ce n'est pas un engagement que vous prenez.
Bien sûr.
C'est juste essayer d'imaginer la suite. Ouais. Une post-thèse, voilà, on est en 2 ans plus tard.
Oui, c'est oui, une question qui finalement est assez difficile. Ouais.
J'ai, c'est une fiction, hein, on n'est pas dans...
Bien sûr, j'ai du mal à me projeter. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est vrai que le plus logique serait de continuer à l'université, de continuer dans la recherche. Pourquoi pas? C'est des places après qui sont assez chères, et puis à voir. Mais bon, après tout, pourquoi pas? Mais sinon, je ne sais pas. Ça peut être aussi de valoriser les compétences que j'aurais acquises pour partir vers un autre domaine, peut-être. J'ai du mal à me projeter, mais c'est vrai que...
Les collectivités locales, peut-être, ou
voilà, les collectivités
locales. Les associations sportives.
Complètement, ça, c'est...
Là, vous avez rencontré du monde, vous avez compris les choses.
Bien sûr. Et puis, bon, mener une thèse, c'est aussi faire de la gestion de projet, parce que pendant 3 ans, on travaille sur un sujet, et puis, on a justement une deadline, 3 ans pour le faire, et à nous de gérer notre temps. Donc au niveau des compétences, c'est très intéressant pour les collectivités locales ou les ligues ou fédérations. Donc ça peut être une possibilité aussi. En tout cas, il y a des options.
Très bien, il faut bien comprendre la thèse. On s'enferme pour travailler, mais on ouvre un monde énorme. Enfin, je dis ça pour vous. Ouais.
Les questions du public.
Bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Tiakwame Damigou, étudiant en Master 2, recherche, sciences de gestion.
Okay.
J'aimerais savoir dans quel courant théorique tu t'inscris et ce que ta recherche pourrait apporter à la discipline entière. Oui.
D'accord, ok. Donc
énorme question.
très, très vaste. Ok.
Vous avez 10 minutes.
Ouais, il m'en faudrait au moins 10. Ouais. Non, il y a une... C'est Loïc Vacant, un élève de Bourdieu qui aime bien... qui utilise l'expression d'objets... qui parle de ces objets de recherche en tant qu'objets vivants, qui essaye justement d'expliquer comment l'objet évolue au travers, à base de structuralisme, en fait, de comment l'objet évolue, comment il se modifie en fonction des époques, des périodes, des acteurs. C'est un peu dans cette logique-là que je traite les classes de mer. C'est très intéressant de voir comment elles se métamorphosent, comment elles évoluent en fonction justement des acteurs qui les mènent, qui changent leur logique, les modalités évoluent comme ça. Et qu'est-ce que je veux apporter à la discipline? C'est en toute humilité, moi je vais faire de mon mieux déjà pour faire une thèse d'histoire, d'e-sport, qui soit un bon travail de chercheur en doctorat. Et si je peux en tout cas lancer les, ou en tout cas mettre les premières pierres de recherche future en histoire du sport sur les mouvements de jeunesse ou les histoires, sur l'histoire des classes de mer ou les mouvements associés, ce sera déjà une très bonne chose. Je serai très, très heureux de mon travail de thèse qui serve à d'autres chercheurs dans le futur.
Moi, ça m'amène une question, parce qu'on a parlé du terrain, on a parlé, des archives. Le terrain, c'est archives et acteurs lors d'interviews, d'enquêtes. Il y a un troisième terrain, c'est la littérature. Là, vous vous référez à Bourdieu, qui est très connu, évidemment. Vous avez d'autres références comme ça
Après,
il y a un corpus qui... Enfin, comme vous défrichez, donc c'est compliqué, mais...
C'est... Partir sur des travaux existants d'histoire du sport, par exemple Sébastien Lafache-Quenet qui travaille sur les classes de neige, forcément c'est une lecture fortement conseillée. Et de la même façon, tous les auteurs qui s'y réfèrent après, à moi de me les approprier et puis d'enrichir les travaux en y mettant les méthodes... juste pour le faire, quoi.
D'accord.
Travailler là-dessus.
J'avais une autre question sur les chiffres. Est-ce que vous êtes donné des indicateurs particuliers pour structurer quelque chose ou un indicateur, ça peut être, je sais pas, le nombre d'enfants qui vont dans les classes de mer.
Forcément, c'est des indicateurs comme ceux-là qui reviennent pendant la recherche parce que ça parle du développement, en fait, de la façon dont ça se développe, dont elles évoluent, comment justement les premières années, par exemple, le développement est assez exponentiel avec une augmentation du nombre d'enfants à venir qui est assez impressionnante et puis qui va continuer à augmenter jusque dans les années 90 avant de stagner. D'accord. Un peu. Ça, c'est un indicateur clair et facile à comprendre, à observer. Après, il y a aussi la provenance des enfants qui peut être un indicateur intéressant pour le voir. Voilà, de ce genre d'indicateur, oui,
est intéressant. Catégorie socio-professionnelle, des familles, des enfants.
Oui, j'aimerais savoir où tu en es. Est-ce que tu es toujours dans l'exploration, c'est-à-dire dans la revue de la littérature ou... Tu commences déjà à faire un travail de terrain, si tu arrives à collecter les données, comment tu les traites? Est-ce que c'est une logique purement positiviste ou tu essaies de trouver des réponses aux situations qui se présentent dans une approche constructiviste? Voilà. Quelle est ta logique de recherche, ta méthode?
Donc où est-ce que j'en suis? Au niveau de la littérature, c'est toujours un travail de veille, donc je pense que ça va continuer jusqu'au bout de la thèse. Après, du terrain, maintenant j'en fais de plus en plus, que ce soit déjà dans la consultation des archives. À la base, j'allais un petit peu aux archives sans chercher quelque chose en particulier. Maintenant, j'essaye de me fixer des points de recherche plus précis. Par exemple, à telle période, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que telle classe de mer s'est développée à tel endroit? Comment? Ça va être plus ça. Et donc, j'essaye d'y répondre et de comprendre pourquoi, pas juste de rapporter les faits. Sinon, c'est pas vraiment de la recherche. Et après, c'est aussi aller beaucoup plus à la rencontre d'acteurs maintenant. Là où j'étais plus dans des entretiens exploratoires, j'essaye maintenant de rentrer dans des échanges plus construits, plus riches, pour justement pouvoir apporter des réponses à mes questions de recherche.
Les archives, c'est quoi? C'est des courriers, des comptes rendus de réunion, ça peut être tout et tout ce qui est écrit, quoi.
Voilà, ça peut être tout ça. Même parfois, c'est visuel. Les photos d'archives, elles peuvent dire beaucoup aussi. Oui, ça peut être des comptes rendus de réunion, voir qui était présent en réunion, qu'est-ce qui s'y est dit, qu'est-ce qui a été décidé, qui était absent. Est-ce que quand telle personne est absente, il s'y dit les mêmes choses que quand telle personne est présente? Ça peut être tout ça.
Ah oui, vous pouvez même faire ça avec, sur les archives. Ouais.
Bien sûr. Et après, ça peut être des documents de promotion aussi, voir comment la promotion des classes de mer, elle évolue. Par exemple, dans les années 70, où on parle peut-être moins du territoire et des ressources du territoire que dans les années plus récentes où on parle énormément de ce qu'offre la région. Donc la logique territoriale, elle évolue comme ça aussi. Ouais.
Est-ce que vous avez eu une approche aussi peut-être économique, donc avec des chiffres et des outils de l'économie. Bon, déjà, l'histoire, la socio, ça va, mais...
Bah, disons que...
Sur le développement du territoire,
ouais, bah, j'aimerais le faire. Pour le moment, c'est vrai que je ne suis pas trop parti dans cette direction, ou en tout cas, je n'ai pas travaillé dans ce but-là. Mais j'aimerais y ajouter aussi des données économiques, parce que peut-être que ce serait plus parlant si je peux justement mettre vraiment des chiffres clairs et puis précis pour parler du développement. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment axé ma recherche là-dessus. Mais ça peut être un enrichissement que j'aimerais mener. Ouais.
D'accord. Bon, c'est aussi un gouffre supplémentaire qui s'ouvre.
Aussi, donc, voilà, il faudra voir aussi si c'est envisageable ou si c'est plus à entreprendre pour une recherche future par la suite et faire quelque chose de plus précis justement sur des données économiques claires.
D'accord. D'autres questions ? Toujours, monsieur. Heureusement que vous êtes là. Si vous n'avez pas des questions... Monsieur qui est en master.
Oui, c'est normal, comme je suis à la porte de la recherche aussi. Mm-hmm. Voilà. Bon, ce que j'aimerais savoir, bon, un conseil pour nous jeunes qui aimerions faire la recherche. Comment procéder? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat? Comment, pour ceux qui sont encore en licence, comment faire?
OK.
Et comment ça se prépare à cette recherche-là?
Un conseil, déjà, je pense que... Le premier conseil, en fait, c'est de bien choisir le sujet sur lequel on veut travailler, d'être sûr d'avoir un intérêt pour ce sujet-là et d'avoir envie justement de creuser et d'enrichir ce sujet. Et ça se fait avec l'aide, je pense, d'une personne de confiance. Donc, il faut tout de suite identifier quelqu'un avec qui travailler. On n'est pas obligé de la connaître, je veux dire, on peut partir des travaux de quelqu'un qu'on aime lire, on aime ce qu'il fait. On aimerait peut-être travailler avec lui, bah, essayer de le contacter et puis bah, de lui proposer un sujet de recherche. Ça peut commencer comme ça, une thèse. Mais je pense que déjà, si la motivation de poursuivre en recherche est là, c'est déjà qu'il y a un pas important qui est franchi pour poursuivre en recherche.
Et là, en l'occurrence, le sujet vous a même été donné, c'est ça, hein ?
Il avait été proposé.
C'est
comme
rare
ça,
en oui. Sciences humaines. C'est la méthode science dure.
Oui, oui, oui. Et voilà, c'était un sujet d'actualité. Donc
c'est une bonne chose, si quelqu'un vous propose un sujet, si un enseignant vous propose un sujet, un chercheur vous propose un sujet, c'est déjà que lui s'y intéresse.
Juste dire que la thèse de Malo se fait dans le cadre d'un contrat doctoral.
Carrément, ouais.
Et que dans le cadre des contrats doctoraux, en fait, les projets sont déposés par les enseignants et ce sont les doctorants qui candidatent sur les sujets. Actuellement. Alors évidemment, le sujet, il est posé par un enseignant en fonction d'un doctorant qu'il a déjà en vue, enfin, dont il sait ouais. qu'il va être intéressé. Donc c'est bien sûr un travail à deux. Mais voilà, le sujet, quand Malo dit c'est un sujet qui a été proposé, qui était déjà là, voilà, en fait, c'est la démarche des contrats doctoraux qui fait ça. Et pour dire qu'effectivement, il faut vraiment insister sur ce groupe qui s'appelle Classmer, qui est mené par Emmanuel Pével et qui a permis aussi la légitimité de ce projet de thèse sur les classes de mer au sein de l'école doctorale.
Oui, c'est important. C'est être sur un sujet qui est déjà porté par un groupe, c'est extraordinaire en fait. C'est une chance.
Bah, bien sûr, oui. Bien sûr. Puis même, on s'engage aussi dans une logique collective et dans la recherche, c'est super intéressant et super important. Oui.
Bien, on arrive à la fin. Une dernière question, peut-être vous trois qui étaient là en premier, ouais.
Bonjour, je voudrais savoir comment tu t'organises au quotidien pour travailler sur ta thèse.
Ah okay. Oui, ça c'est une très bonne question.
Ouais. Bah, ouais, c'est vrai que c'est une question qui est intéressante parce que finalement on a une certaine liberté. J'ai pas d'horaire de bureau à respecter. J'organise mon travail comme j'en ai envie. Donc il peut y avoir des périodes où je vais beaucoup travailler et puis d'autres périodes qui vont être plus creuses. Et puis ça peut être pour divers facteurs. Hein, je ne sais pas, l'inspiration qui va être moins là, l'envie qui va être moins là. Et à d'autres périodes, par contre, où le sujet il va vraiment avancer. Donc c'est une organisation. Il n'y a pas d'organisation qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. En fait, je pense que ça dépend de chacun. Et après, c'est à chacun de trouver son rythme. Mais dans les premières semaines, voire dans les premiers mois de la thèse, on peut mettre un peu de temps à le trouver parce que justement, on ne sait pas trop par où commencer. Et puis, en même temps, on n'a pas toutes les obligations qu'on peut avoir en tant qu'étudiant classique avec des horaires à respecter pour aller en cours et tout ça. Et donc ça demande vraiment rigueur et organisation, et c'est à chacun après de la trouver.
Vous avez des échéances, des rendez-vous
Bien
des...
sûr, après c'est aussi ça qu'il faut construire, mettre des échéances à telle date, essayer de se fixer des objectifs, même si ce n'est pas défini avec son directeur, hein, ça peut être juste vis-à-vis de soi-même, se fixer des objectifs, dire à telle date j'ai fini telle partie ou telle, les archives de telle organisation, je les aurais traitées. Ça peut être comme ça, en fait, qu'on s'organise après petit à petit. Ouais.
Merci à Malo Camus, doctorant au Centre de recherche bretonne et celtique et à l'école doctorale Société, Temps, Territoire. Dans la prochaine émission du Lab U, nous nous intéresserons à la ville et le sport avec Julien Fuchs, Charlotte Parmentier et Thierry Michaud, tous trois enseignants-chercheurs à la Faculté des sciences du sport et de l'éducation de l'UBO. À suivre dans le prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.